France Inter, le 18-20.
Et vous êtes en train de préparer le repas peut-être, ou vous commencez à avoir faim, allez savoir. Qu'est-ce qu'on mange? À ma droite, une entrecôte, un blanc de poulet, une omelette. À ma gauche, rien de tout ça, surtout rien. Et pas de cuir sur vous non plus, pas de laine sur le dos, pas de maquillage à base de graisse d'animal, pas de bonbons pour une douceur. Est-ce que ça vous paraît trop? C'est quoi cette mode pour bobo, ces excès de ces gens qui se mettent en marge? Ça vous paraît sain? Parce qu'on sait désormais se nourrir et vivre sans tuer les animaux. Est-ce que vous êtes au milieu finalement, que vous êtes plus attentif à ce que vous mangez, à ce que vous portez, parce que vous savez que l'agriculture est plus respectueuse désormais des animaux qu'elle a pu l'être, et tout cela vous convient? En tout cas, le débat, il existe, il divise et il interroge. C'est ce qu'on fait ce soir dans Le Téléphone Sonne. Soyez les bienvenus.
Fabienne Synthèse, Le Téléphone Sonne.
Et c'est avec vous, Vincent, qu'on commence. Soyez le bienvenu dans Le Téléphone Sonne. On vous écoute.
Oui, bonsoir.
Allez-y. Bonsoir, Vincent.
Oui, moi, je suis à la fois maraîcher et je suis producteur d'agneaux. Là, je suis en train de garder mes brebis dans un verger où elles désherbent ça très tranquillement. Ce matin, j'ai ramassé des légumes, et quand on ramasse des légumes, on tue des animaux aussi. Quand on prépare des sols pour mettre des salades, pour mettre des carottes, on tue des animaux. Quand on moissonne du blé, malheureusement, on écrase plein de sauterelles et autres animaux. Donc L214 devrait filmer aussi l'intérieur d'une moissonneuse-batteuse. Il serait horrifié de ce qu'il verrait. Donc pour produire des végétaux, on est obligé de tuer des animaux aussi. Et si je passe le broyeur dans mes vergers, puisque les vergers, on est obligé de les entretenir pour avoir une production, si je passe le broyeur dans mes vergers, je vais tuer beaucoup plus d'êtres vivants sensibles que ce que je fais actuellement avec mes moutons.
Ce que vous dites, Vincent, en gros, c'est qu'on ne peut pas faire sans tuer d'une manière ou d'une autre, et même avec la meilleure bonne volonté du monde. C'est en gros ce que vous dites.
Oui, bien sûr, il n'y a aucun agriculteur qui aime tuer, quoi. Ça, c'est évident, on est là pour nourrir nos semblables. Le mieux possible, quoi.
Et on a compris votre message. Restez avec vos agneaux. Je suis assez curieuse de savoir comment vous nous écoutez, du coup, puisque vous êtes visiblement en plein milieu de la campagne. Mais merci, en tout cas, Vincent. Pour vous répondre, Brigitte Gauthier est là. C'est la cofondatrice de l'association L214. Josian Palache aussi. Vous êtes éleveur bovin, secrétaire national de la Confédération Paysanne. Et puis, Éric Birlouet, ingénieur agronome. Vous êtes aussi sociologue de l'agriculture et de l'alimentation. Puisque c'était pour vous la question directement ou pas, Brigitte Gauthier. Ce que dit Vincent, c'est au bout du bout, on ne peut pas ne pas tuer d'animaux du tout, en fait. C'est juste
mais
impossible.
Complètement, oui, c'est vrai que c'est impossible. La mentalité, enfin, l'idéologie végane et non et antispéciste, en fait, c'est vraiment d'essayer de vivre en créant le moins possible de souffrance autour de soi. Donc, effectivement, l'agriculture, ça tue des animaux, des petits animaux, des insectes, etc. Mais en fait, si on est sur une alimentation 100% végétale, on en tue moins, finalement, qu'on en tue quand on mange de la viande, puisque pour consommer de la viande, on va faire pousser exprès des végétaux qu'on va récolter exprès. Et c'est entre 3 et 7 kilos de végétaux pour faire 1 kilo au niveau des protéines pour les animaux. Donc effectivement, personne n'a jamais prétendu que l'alimentation végane, c'était celle qui était complètement exempte de souffrance animale.
Mais de toute façon, ça
mais au moins, c'est
pas,
réduit.
Non,
ça n'existe pas, mais on peut essayer de réduire. Et aujourd'hui, on sait qu'on peut très bien se passer de produits d'origine animale. Et que ça a beaucoup de bénéfices. On sait se nourrir autrement, on sait fertiliser les sols autrement, donc on n'a pas besoin de tuer les animaux. Et on voit que, au niveau éthique, du coup, ça va être mieux. Au niveau de l'environnement, on sait que ça a un impact aujourd'hui très important, l'agriculture telle qu'elle est menée, sur les émissions de gaz à effet de serre, les nitrates, l'ammoniac, la déforestation,
Brigitte Gauthier,
la santé.
Ne sortez pas tous vos arguments tout de suite, on a une heure devant nous, donc on aura largement le temps d'en parler. Je vous ai vu réagir, Éric Birlouet.
Non, ce qui est intéressant, effectivement, on voit bien que la question qui est posée par Vincent, je crois,
Vincent.
Il parle des petits animaux, donc il parle des insectes, etc. Et c'est vrai que c'est pour moi une question par rapport à l'antispécisme, qui est de dire finalement, jusqu'où va-t-on dans le respect dû aux animaux? Est-ce que l'on fait ou pas une hiérarchie finalement entre les espèces animales? Ou est-ce qu'on considère finalement que tous les animaux, pas seulement les cochons et les poules, mais aussi les insectes, doivent être respectés? Et on voit bien que c'est quand même compliqué en termes d'application pratique, si on veut être vraiment cohérent avec cette philosophie de l'antispécisme.
Oui, c'est un petit peu compliqué, et en même temps, c'est la balance des intérêts, justement. Déjà, il faut se poser la question, quels sont les animaux qui sont doués de sensibilité? Puisque c'est le critère qui est retenu, et qui est logique, qui est juste pertinent, pour savoir si on prend en compte ou pas un être. Voilà. Donc, du coup, en se posant cette question-là, on va pouvoir déterminer comment on fait la balance des intérêts. Et après, c'est sûr que il y a des situations où on va être dans des positions où on va avoir toutes les difficultés du monde à pouvoir respecter les intérêts des deux. Et donc, il va falloir quand même. Là, aujourd'hui, en fait, ce qu'on a, c'est que d'un côté, on a des êtres humains qui ont envie de manger de la viande et pas besoin. Et de l'autre, des animaux qui tiennent à leur vie, mais qu'on a fait naître exprès, etc. Enfin, on peut refaire tout le circuit de la viande. Enfin, c'est pas du tout la même chose.
On ne va pas le refaire tout de suite. Je voudrais qu'on écoute Gérard. Vous nous appelez de Toulouse. Bonsoir à vous, Gérard.
Oui, bonsoir. Je vois qu'on a déjà entrepris tout à fait partiellement de répondre à ma question.
Partiellement seulement, donc finissez-la.
Mais voilà, il y a sûrement à approfondir cela. Parce que moi, ce que je me demande d'une manière tout à fait pragmatique, si ça n'est pas bien, puisque là on est dans la morale, de ce qui est bien et de ce qui est mal, les végans entendent définir ceci, en matière d'alimentation et en matière d'organisation de la vie sur Terre, mmh, entre les hommes et les animaux. Donc, je me demande ce qui se passe purement et simplement sur la planète, sur l'ensemble de la planète, si, alors que ce soit progressivement d'ailleurs, ou brutalement, ce qui n'est pas tout à fait envisageable, mais si, à terme, on rend aux animaux leur droit de vivre toute leur vie jusqu'à leur vieillesse et leur mort naturelle, et si on les laisse profiter de leur liberté, si on les laisse se reproduire autant qu'ils le veulent, puisque c'est mal de les tuer, comment va-t-on faire face à leur multiplication? Et je note juste au passage que je viens d'entendre dire à l'instant là que écraser une mouche sur la vitre ou une araignée qui nous fait pas plaisir, c'est pas grave parce que c'est des animaux qui ont pas de sensibilité. Ça me fait rigoler doucement, quoi.
Parce que vous pensez que les mouches et les araignées ont une sensibilité, Gérard, pardon, c'était ça le sens de votre question? Ou c'est qu'on n'en sait rien, en fait, c'est ça? C'est qu'on ne sait pas?
C'est pas vraiment tout ça, mais la question qui a été posée était très judicieuse. Où on fixe la limite? Alors on nous dit que bon, ben on en trouvera bien une, mais à partir du moment où on est dans l'absurde, je pense que de limite, on les a passées depuis longtemps, quoi.
Voilà, Gérard, merci. Vous comprenez ce que je veux dire. Merci, on a compris ce que vous voulez dire. Merci beaucoup pour votre question. Tiens, je me tourne vers vous, Josiane Palache, qui n'avait pas encore parlé. Vous êtes éleveur bovin. Si effectivement, si subitement tous les animaux que vous avez, on n'y touche plus, on ne les tue plus. Qu'est-ce qui se passe, en fait?
Je crois qu'il faut revenir quand même un peu à l'histoire de l'humanité, où l'homme, quand il est apparu sur Terre, il a été le chasseur. Puis il a pratiqué l'agriculture, il a pratiqué l'élevage, avec un lien très fort entre le paysan, qui était quand même la majorité des citoyens à l'époque, et les animaux. Et là, dernièrement, dans le cours du XXe siècle, il y a eu une dérive très forte sur l'exploitation de l'animal. Et on a perdu le sens du lien du producteur avec l'animal. On a fait disparaître beaucoup de paysans, on a concentré les fermes, on a concentré les élevages, et on arrive à des situations effectivement d'extrême. Et nous, ce qu'on revendique, c'est qu'il faut maintenir le lien de l'élevage sur les territoires est fondamental pour si on veut garder des territoires vivants. Il faut que le système de polyculture élevage soit certainement les systèmes les plus vertueux qu'on a fait disparaître aussi dans nos évolutions agricoles.
Et justement, est-ce qu'on progresse? Et peut-être d'ailleurs en partie grâce aux vidéos d'L214, est-ce qu'il y a une prise de conscience chez vous, de la part des agriculteurs, beaucoup, et des progrès qui sont finalement plus rapides en la matière ou pas?
Alors, des progrès en concentration d'animaux, non, ils sont dans le mauvais sens. Ils sont franchement dans le mauvais sens. D'ailleurs,
ferme des mille vaches, etc.
L'usine des mille vaches, j'ai participé, contribué un peu à mettre ça sur la place publique, est un exemple flagrant. Et ça, et d'autres. Et dans les porcs, c'est aussi, dans les poulets, c'est des systèmes concentrationnaires, c'est clair. Mais il existe l'élevage pratiqué sous la forme paysanne, c'est-à-dire un lien quand même qui reste fort entre l'éleveur et les animaux, a toute sa place dans notre société.
Vous considérez, Brigitte Gauthier, que d'élevage, il ne doit plus y avoir, en fait, de toute façon. On est même au-delà de ce que dit Josiane Palache. Même un élevage dans de bonnes conditions, en gros, est-ce qu'on peut élever dans de bonnes conditions, selon vous, ou c'est impossible?
Alors, on pourrait accompagner dans de bonnes conditions. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, on fait naître des animaux. Donc, la question d'avant, si on va être envahi d'animaux, etc.
Enfin, aujourd'hui, j'allais y venir, mais on va poser la question. Et
concrètement, on les fait naître. La finalité, c'est quand même de tirer un revenu de leur mort. Donc, on fait naître des animaux pour les tuer au final. Et nous, c'est ça qu'on remet en question. Alors, on prétend pas que
ça veut dire que
on a
si
toutes
on
les réponses, mais c'est une direction.
Ça veut dire que si on se contentait d'élever un nombre moins important de bovins, par exemple, et que on les tuait dans des conditions qui sont beaucoup plus humaines qu'aujourd'hui, est-ce que vous diriez, dans ces conditions, je peux ?
Non, tuer humainement, enfin, tuer avec respect. Ça n'existe pas pour quelqu'un qui ne veut pas mourir ou quelqu'un qui n'est pas dans une position où il va souffrir. Enfin, ça s'appelle l'euthanasie quand on tue avec respect et c'est fait dans l'intérêt de l'individu qu'on va tuer. Aujourd'hui, on tue dans notre propre intérêt, nous, en tant qu'humains. Et c'est bien un système qu'on dénonce. On n'est pas positionné contre les éleveurs, contre les abatteurs, etc. On pose une question de civilisation aujourd'hui, de notre rapport avec les autres animaux.
Et quand on parle de question de morale, d'ailleurs, c'est le mot qui a été employé par Gérard, je trouvais que c'était intéressant qu'il parle de morale. Est-ce qu'il y a quelque chose de moral là-dedans, Éric Birlouet? Est-ce qu'on est en train de nous imposer une morale, en gros, une autre morale?
De nous imposer, en tout cas, j'espère pas. En tout cas, le débat mérite d'être posé.
Est-ce qu'il est moral, en gros, pardon, oui. Je l'ai reformulé, effectivement.
Mais en fait, cette question de la légitimité morale ou pas d'élever des animaux et de les tuer, elle est en réalité extrêmement ancienne. Alors moi aussi, je vais revenir au début de l'humanité, mais on sait, en tout cas c'est ce que pensent les spécialistes, que les premiers chasseurs, eh bien, ils adressaient des excuses, des remerciements, des prières aux esprits qui peuplaient les animaux. Parce que l'acte de mettre à mort un animal n'est pas quelque chose qui est aussi naturel que ça. Et puis, évidemment, la société, elle a évolué et on a fini par considérer que entre l'homme et l'animal, il y avait une telle différence de nature que l'homme pouvait tout se permettre. Et ça a été aussi le rôle des religions, etc., de Descartes. Je ne développe pas cet aspect-là. En fait, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que il y a, après sans doute des décennies, on pourrait dire des siècles de, finalement, on se posait plus cette question. Cette question, elle est vraiment réactivée. Alors, elle est réactivée à la fois, évidemment, parce que des associations comme L214 ont finalement dévoilé une réalité. Et en même temps, on voit bien que les choses sont beaucoup plus complexes qu'on le dit. C'est une vraie question. Est-ce qu'il faut absolument se poser? Après, qu'est-ce qu'on en tire comme conséquences? Est-ce que les conséquences, c'est l'abolitionnisme, c'est-à-dire faisons disparaître l'élevage de la planète? Et là, moi, je pense que ça pose des questions. Ou est-ce que la solution, qui en tout cas à moi me paraît juste, c'est de dire comment peut-on concilier le respect des animaux avec finalement les bénéfices que la société tire de ces animaux. Mais il faut évidemment
Oui, mais justement, ces bénéfices, ils pourraient ne pas être de les tuer. C'est-à-dire que quand on a des animaux qui pèsent paisiblement, qui nous entretiennent les paysages, enfin, nous, on voit aucun problème à ça. Le problème, c'est qu'on a un objectif derrière qui est de les tuer et de les renouveler, etc.
Et bien justement, je voudrais qu'on entende Muriel. Bonsoir Muriel.
Oui, bonsoir.
Et vous avez une question qui prolonge ce qu'on est en train de dire, allez-y.
Oui, tout à fait. Donc ma question est la suivante. J'aimerais savoir pourquoi les véganes refusent de manger des œufs et du lait, alors que quoi qu'il arrive, une poule pond, une vache produit du lait, ça ne les fait pas souffrir. Au contraire, une vache, ça la ferait souffrir si on ne la trayait pas. Donc pourquoi en plus c'est se priver d'une bonne source de protéines pour les êtres humains? Donc voilà ma question. Et puis par extension, même question concernant la laine. Les moutons, il faut les tondre. Donc pourquoi ne pas utiliser cette laine pour du textile ou un autre usage?
Merci beaucoup Muriel pour votre question. J'imagine Brigitte Gauthier que c'est quelque chose qu'on vous demande tout le temps en fait. Et en effet, allez-y, répondez à Muriel. Pourquoi pas effectivement des œufs et du lait? Ou de la laine.
L'industrie du lait, en fait, c'est intimement lié à l'industrie de la viande. Pour obtenir du lait, il faut faire naître un veau qu'on va retirer à sa mère pour pouvoir prendre le lait nous-mêmes. Alors il y a différents types, races laitières aujourd'hui, avec des traits productifs comme les Primalstein, qu'on a vraiment sélectionnés génétiquement pour qu'elles fassent le plus de lait possible. C'est celles qu'on peut retrouver par exemple dans la ferme des 1000 vaches. On a vraiment ce type d'animaux fait pour ça. Enfin,
mais imaginez les vaches de Josian Palache qui sont tranquilles, à qui on ne demande rien, qui sont tranquillement.
Non, elles sont tranquilles. Elles sont traites. Elles sont alors effectivement, bon, elles vont pâturer, ça c'est sûr. Elles sont sur un niveau de production. Effectivement, c'est pas des vaches à 10 000 kilos par vache, c'est des vaches à moins de 5 000 kilos. Elles sont pas poussées à la consommation, à un aliment concentré pour qu'elles produisent le maximum de lait. Mais effectivement, le but c'est quand même de produire du lait. Pour nourrir nos concitoyens, pour leur apporter des fromages, quand même, des bons produits laitiers. C'est pas mauvais, le produit laitier.
Donc les veaux sont retirés. Donc soit ils vont servir, si c'est des femelles, à renouveler le cheptel s'il y en a besoin. Si ce sont des mâles, ils rentrent dans le circuit de la viande et donc ils finissent aussi à l'abattoir. Et ces vaches laitières aussi, quand elles ont fini de produire, si elles deviennent stériles, si elles ont des mammites à répétition, s'il y a trop de cellules dans le lait, elles vont à l'abattoir. La moitié des steaks hachés. Ça provient de vaches dites de réforme, c'est-à-dire des vaches laitières qui ont fini leur carrière et on les tue à peu près. La moyenne en France, elle est à 5 ans, alors qu'une vache, ça peut vivre 15 ou 20 ans.
Et la laine, parce que je comprends bien que les moutons dont on tond la laine, on finira peut-être par les tuer, mais est-ce qu'on peut, si on imagine un mouton qu'on ne tuera pas in fine, pourquoi pas utiliser sa laine ?
Alors aujourd'hui, on a pas mal de moutons qui sont aussi issus de sélection génétique, donc ils produisent énormément de laine, donc on les a aussi optimisés. Enfin, ils n'avaient pas besoin des êtres humains bien avant pour pouvoir les tondre. Et aujourd'hui, la production de laine, elle est concentrée en Australie. 75% de la laine, c'est l'Australie. Et donc, ce sont des animaux qui sont élevés, alors là, sur des grandes surfaces, effectivement. Mais on pratique le musling, c'est-à-dire qu'on va leur couper l'arrière-train et tout ça. Mais nous, on n'est pas spécialistes des questions de la laine.
Mais pardon, si vous aviez, excusez-moi de vous poser la question comme ça, si vous aviez un mouton dans votre jardin que vous laissez vivre tranquillement et qu'il fait de la laine, est-ce que vous vous feriez un pull avec cette laine-là, sincèrement ? Puisque de toute façon, vous ne faites pas de mal à votre mouton et vous n'allez pas le tuer.
Ça rejoint un petit peu la question des œufs, finalement. Ouais. Si vous avez 4 poules dans votre jardin, est-ce que c'est des poules qui pondent des œufs, qui les abandonnent, est-ce que c'est un problème ? Le problème, c'est pas l'œuf, c'est la poule. Et aujourd'hui, les œufs que vous achetez dans les supermarchés, dans tous les endroits, c'est des œufs de production, c'est-à-dire qu'on a différents types d'élevage, bio, plein air, au sol ou en cage, et tous sont issus des mêmes couvoirs où naissent les poussins. Les mâles, quel que soit le mode d'élevage, ne vont pas pondre d'œufs, donc ils sont broyés à la naissance. On a montré ces images en novembre 2014. Et puis, au bout d'un an de ponte, de toute façon, toutes les poules pondeuses sont destinées à l'abattoir.
Jean-Louis, vous avez une question qui revient souvent. C'est vous qui allez la poser pour tout le monde. Donc, bonsoir à vous, soyez le bienvenu.
Oui, avant de poser ma question, je vais réagir directement à ce que je viens d'entendre.
Allez-y.
Parce que si, effectivement, on n'utilise plus la laine des moutons, les œufs des poules, etc., le premier résultat va être un énorme génocide à l'échelle de la planète, c'est-à-dire on va tuer toutes ces bêtes. Puisque à partir du moment où on ne les utilise plus, ben on va les massacrer. Et dans des espèces qui ont été créées par l'homme au cours des 10 000 dernières années, ben vont tout simplement disparaître.
Moi j'ai compris qu'on les laissait vivre. Moi j'ai compris qu'on les laissait vivre et qu'on les laissait s'éteindre toutes seules. Mais
vous allez laisser s'éteindre, regarder des poules dans une basse-cour, elles s'éteignent pas toutes seules, désolé, s'il n'y a personne pour s'occuper d'elles, ben elles crèvent de façon assez atroce. Mais ma question n'était pas là.
Non, c'est vrai.
C'est que le point, si je trouve que c'est un abus de langage de se prétendre en tant que vegan, défenseur de la biodiversité et de l'écologie. Parce que lorsqu'on dit que l'on ne se sert plus de laine de mouton pour s'habiller, ou lorsqu'on dit qu'on ne va plus utiliser le miel des abeilles pour ne pas les exploiter, etc., dans la pratique, on remplace ces produits par quoi ? Ben, il suffit de rentrer dans un magasin vegan pour vous en rendre compte. C'est-à-dire que vous tombez sur des produits qui sont des produits de l'industrie chimique. Entre autres, les vêtements sont évidemment faits avec du pétrole, du plastique, etc. C'est-à-dire qu'en réalité, par ces productions-là, on va produire beaucoup plus de désordre, enfin aggraver les désordres déjà existants, et produire beaucoup plus de dégâts pour les animaux de la planète et la biodiversité que en exploitant, alors je suis d'accord contre les abattoirs, les usines à 1000 vaches, etc., mais qu'en exploitant correctement les relations qu'on a actuellement avec les animaux et en utilisant donc des produits animaux.
Merci beaucoup pour votre question, Jean-Louis. On a bien compris, Brigitte Gauthier, effectivement, est-ce que c'est pas l'effet inverse? En gros, tout ce qui est vegan vient du pétrole, pour caricaturer un petit peu ce que dit Jean-Louis, mais c'est un petit peu l'idée.
Oui, c'est un petit peu caricatural, comme vous dites.
Les véganes, mais honnêtement, c'est pas faux ce que dit Jean-Louis.
C'est pas faux parce que les magasins spécialisés peuvent parfois concentrer un très grand nombre de produits.
Il y a des trucs en plastique, etc.
Mais comme dans tout, les magasins, enfin n'importe quel magasin. Vous rentrez, il y a beaucoup de choses issues du pétrole. Aujourd'hui, il y a aussi le lin, le coton, le chanvre. Il y a tout un tas de produits qui existent, qui sont pas forcément... on peut allier être vegan et être en faveur de l'environnement. Et d'ailleurs, si on rappelle les conséquences sur l'environnement d'aujourd'hui, notre production et notre consommation de produits d'origine animale, c'est les émissions de gaz à effet de serre. La FAO chiffre à 14,5% les émissions de gaz à effet de serre. C'est les nitrates, les algues vertes qu'on connaît en Bretagne, c'est l'ammoniac qui fait les pluies acides, c'est la déforestation, on a déforesté une grande partie de l'Amazonie pour pouvoir produire des produits. La France, elle importe 5 millions de tonnes de soja encore aujourd'hui. Et puis concernant la biodiversité, on n'a jamais eu aussi peu de biodiversité qu'aujourd'hui, notamment justement dans l'agriculture.
Éric Birlouet, est-ce qu'on peut changer intégralement, en fait, y compris ce genre d'habitude? Je pense à la question de Jean-Louis sur les nouveaux habits, le refus du cuir dans les chaussures, etc. Tout ça, c'est très compliqué.
Alors déjà, c'est très compliqué au niveau individuel, mais enfin certaines personnes y parviennent. Les habitudes alimentaires sont assez solides, mais si on est vraiment très convaincu, je pense effectivement qu'aujourd'hui, parce qu'il y a une offre en face, on peut plus facilement qu'autrefois y adhérer. Simplement, je voulais dire, je pense qu'il faut peut-être se méfier d'un discours qui serait trop simpliste finalement, ou trop manichéen, tout noir ou tout blanc. Je donne juste un exemple. On parle tout à l'heure, et avec à juste titre, du bien-être animal. On a parlé des volailles, on a parlé du confinement. Or, des études ont montré, par exemple, que spontanément, nous allons considérer que être en plein air, c'est évidemment mieux, et c'est vrai, que d'être dans un milieu confiné. Et en même temps, on se rend compte que des volailles qui sont en plein air sont soumises aux prédateurs, sont soumises aux parasites. Ce que je veux dire, c'est pas que c'est mieux l'un que l'autre, mais que il faut dans ce domaine, à chaque fois, examiner le plus objectivement, le plus scientifiquement possible, les systèmes qui ont des avantages et des intérêts. Et par rapport à l'environnement, bien évidemment que l'élevage, comme beaucoup d'activités économiques, a une contribution négative sur l'environnement, mais on voit sur Internet des chiffres qui sont, de ce point de vue-là, complètement délirants. Juste, j'en cite un, qui est toujours le même chiffre que l'on voit partout, qui est la consommation d'eau. Pour produire un steak de 100 grammes, nous dit-on, il faut 1540 litres d'eau. Or, 93% de cette eau, dans le calcul qui a été fait, c'est de l'eau de pluie qui retourne bien évidemment à la nature sous forme de vapeur d'eau. C'est l'eau qui est...
Josian Palache, vous voyez réagir notamment sur la responsabilité de vos animaux sur l'environnement.
Oui, la responsabilité des animaux, je pense, c'est suivant le type d'élevage qu'il y a. Si, quand on est sur des élevages qui sont extrêmement concentrés, ou pour les nourrir, effectivement, on fait venir du soja qui a traversé la planète, qui est... ça c'est extrêmement négatif. Sinon, au niveau des ruminants, on peut très bien produire des animaux en boutant de l'herbe. Ça fonctionne très très bien. Et ces animaux produisent moins certainement à l'unité, mais ils occupent le territoire. Et au niveau du dégât par rapport au gaz à effet de serre, je pense au niveau fertilisation et tout, je crois le système de polyculture élevage est certainement le plus adapté, le plus vertueux en respect de l'environnement.
Oui, d'autant plus que les prairies jouent un rôle de puits de carbone.
Encore une fois, c'est la finalité qu'on interroge.
Et je voudrais justement, qu'on écoute deux personnes l'une après l'autre. On va commencer par Michel, qui est en train doucement de changer de régime alimentaire, et on va aller chercher Mehdi aussi dans un instant, qui lui a fait le chemin inverse. Bonsoir à vous, Michel.
Bonsoir.
Et merci de nous appeler au 01 45 24 7000. Je précise que vous êtes membre de L214, parce que ça pose aussi qui vous êtes, et vous dites que vous êtes en train de devenir vegan. En train,
oui,
ça veut dire quoi?
Oui, c'est-à-dire pas tout à fait. Ça a été pour trois raisons essentielles, c'est-à-dire contribuer le moins possible au suicide de l'humanité, c'est-à-dire puisque que le réchauffement climatique, l'élevage contribue plus que le transport, qu'une protéine animale consomme 8 fois plus de ressources qu'une équivalente végétale. Pour une deuxième série de raisons, c'était participer le moins possible à la souffrance animale dans les modes d'élevage majoritaires qui sont industriels et modes d'élevage, de transport, d'abattage, notamment rituels sans étourdissement. Et enfin, pour la santé personnelle, pour tenter de ne pas avoir de maladies cardiovasculaires ou bien certaines formes de cancer. Alors j'ai commencé par éliminer la viande rouge, ensuite ça a été la viande blanche, ensuite ça a été les produits laitiers. Là où ça a été moins évident, parce que j'étais vraiment accro, ça a été les fromages. Mais quand je me suis aperçu que le mode de fabrication des fromages, c'était pas vraiment doux, puisqu'on arrache le veau, on insémine de manière artificielle les vaches, notamment pour qu'elles soient tout le temps enceintes, on leur arrache le veau, qu'on tue, non seulement pour l'envoyer à l'abattoir, mais aussi pour prendre son estomac, parce que c'est avec son estomac qu'on va faire la présure et qui va permettre de faire le fromage. Donc j'ai mis quand j'ai compris ça, mais j'ai mis du temps à le comprendre, j'ai mis du temps à le prendre, j'ai mis en balance le plaisir que j'ai éprouvé avec les fromages.
Mais Michel, du coup, est-ce que c'est
un véritable, à la fois un défi plutôt amusant d'arriver à s'en passer en apprenant à faire des associations légumineuses, céréales, mais qui peuvent être aussi attrayantes en essayant de faire des plats colorés et tout. Et je voudrais attirer l'attention, surtout pour toutes les personnes qui seraient tentées de suivre la même évolution, sur la nécessité, le seul supplément qui soit absolument indispensable, c'est la B12. Il suffit d'en prendre une miette par jour, mais c'est dramatique si on n'en a pas assez. Ça n'a aucune importance si on en prend trop, et c'est dramatique si on n'en prend pas assez. Ça, c'est le point principal. Mais là, actuellement, le seul produit... Donc, j'ai éliminé tous les produits végétaux, y compris dans l'habillement. Et bon, comme l'a dit Brigitte Gauthier, on peut effectivement prendre du lin, du coton, du chanvre, notamment. Mais en revanche, le seul produit d'origine animale que je prends encore un peu, mais de moins en moins, c'est par exemple des fruits de mer, juste une fois par semaine, ou du poisson qui ne soit pas en voie de disparition, comme un maquereau. Voilà.
Vous avez besoin d'une pointe d'évolution. La question sur la vitamine B12, on va écouter Mehdi dans une seconde. Je voudrais vous la poser, Brigitte Gauthier, parce qu'on a une autre question qui dit sur franceinter.fr, on dit que les véganes ont besoin de compléments alimentaires pour rester en bonne santé. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a toujours des compléments alimentaires à apporter ou pas?
Alors, je dirais que la population globale, de toute façon, a besoin de compléments alimentaires. Vous prenez du sel iodé.
Où est-ce que vous cherchez vos B12?
Et donc, la B12, c'est une vitamine qui n'existe que dans les produits d'origine animale aujourd'hui. L'industrie de la B12, sur les 100%, 99% à peu près, c'est destiné aux animaux d'élevage. On a beaucoup d'animaux qui sont élevés aujourd'hui hors sol et on leur apporte dans leur alimentation des vitamines. Donc, en fait,
mais
finalement, nous, on prend
sincèrement tous les jours
la
B12, des compléments.
Oui, moi, je prends la B12 tous les jours, oui, évidemment.
Je voudrais qu'on écoute Mehdi. Bonsoir, Mehdi.
Bonsoir.
Parce que vous avez fait le chemin inverse de Michel, et c'est pour ça que vous nous intéressez. Vous avez été vegan, vous êtes revenu en arrière. Pourquoi?
Alors, j'ai lu effectivement un ouvrage d'Émeric Caron, et j'ai vu les vidéos de L214 qui m'ont culpabilisé. Mais je suis revenu parce que c'était compliqué en société d'avoir cette rupture fondamentale. Et en fait, la question que je me suis posée plutôt devant l'extrémisme et finalement la rupture extrême de L214, c'est si on veut avoir un impact global sur le règne végétal et animal qui soit significatif, est-ce qu'il ne faudrait pas poser les bases en deux temps? D'abord, convaincre l'ensemble d'une population de devenir flexitarienne, ce qui va sensiblement et réduire l'impact sur la consommation eau, carbone, etc. Et ensuite, arriver peut-être au véganisme. Alors que là, le véganisme,
quand on passe par la phase flexitarienne, c'est-à-dire avant d'être complètement... C'est juste une manière de s'adapter à un autre régime, en fait.
Exactement, parce que cette rupture, elle est facile quand vous êtes jeune, vous n'avez pas d'attache. Moi, j'ai une famille et des enfants, ils aiment la viande. Et je ne peux pas leur imposer du jour au lendemain, ou même en quelques mois, cette rupture-là.
Et dans la société, de toute façon, j'imagine, vous allez au resto avec des amis, etc. Est-ce que c'est ça aussi qui vous a fait revenir en arrière ou pas du tout?
J'ai renoncé à manger de la viande, si ce n'est chez moi. Je l'achète auprès d'un boucher qui connaît personnellement l'ensemble des éleveurs, qui ont des toutes petites propriétés, des petits élevages. Et donc, notre impact, enfin, moi, ma consommation, c'est moins d'une centaine de grammes de viande par mois.
Josiane Palache, merci beaucoup, Mehdi, pour votre témoignage. On va revenir à vous, évidemment, Brigitte Gauthier, dans un instant. Ce que dit Mehdi, c'est si je connais mon boucher, si je connais ma viande, si je connais l'éleveur, c'est pas pareil et ça marche. Ça fait partie du travail que vous faites, vous aussi, finalement, de votre côté.
Oui, non, on travaille sur la problématique de la relocalisation et du lien entre la production et les consommateurs. C'est que ces liens se sont distendus au cours du XXe siècle
très, très fortement,
et qu'il faut certainement revenir à un lien beaucoup plus proche entre les éleveurs et les consommateurs. Et par ça aussi, la question des abattoirs, d'avoir des abattoirs de proximité aussi qui évitent des transports et des souffrances pour les animaux. Et même nous, ça se pratique en Europe, il y a des possibilités de faire, on revendique de pouvoir faire des abattages à la ferme pour éviter des stress sur les animaux. Et ça se pratique en Autriche, alors en France, on a du mal à faire comprendre au ministère que effectivement, c'est quelque chose qui pourrait se mettre en place pour éviter ces problématiques de stress aux animaux au moment de l'abattage.
Brigitte Gauthier, il parlait de la difficulté, Mehdi. Alors vous allez me dire que non, c'est pas si difficile, mais oui,
non,
quand
non,
on est
non,
en famille, etc., tout ça, c'est pas simple en fait.
Alors, c'est pas forcément super simple. On est dans un monde où tout le monde mange de la viande parce que tout le monde mange de la viande en fait. Et dans votre famille, autour de vous, vos amis, la plupart des gens aujourd'hui continuent de consommer des produits d'origine animale. Et du coup, Mehdi, il fait partie de ces personnes qui pense qu'effectivement, c'est complètement injuste de faire tuer les animaux pour les manger, mais qui, cette norme sociale, elle est très très forte. Sur l'ensemble de sa question, il dit est-ce qu'on devrait pas rendre d'abord tout le monde flexitarien et puis ensuite mixer les deux, c'est-à-dire réduire sa consommation. Mmh. Alors bien sûr, les actions que nous menons, elles ont ça pour conséquence, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne consomment pas vegan du jour au lendemain, etc., mais qui sont en chemin. On a des outils pour les aider, notamment avec les sites vegan pratiques et le Veggie Challenge, là, en 21 jours, on accompagne. Et on essaye aussi, par ailleurs, de faire reculer la cruauté. C'est-à-dire qu'on va avoir des campagnes comme celle sur les poules pondeuses, où on va demander aux industries agroalimentaires d'arrêter d'utiliser des œufs de poules élevés en cage. Donc on va avoir deux actions. D'un côté, on va lever cette question de civilisation. Est-ce que aujourd'hui, n'ayant plus besoin de consommer des produits d'origine animale, on continue de faire tuer 3 millions d'animaux par jour en France, et puis des dizaines de millions de poissons, parce qu'on parle très peu du peuple des mers, mais là aussi on y va. Quoi.
Effectivement, il y a du poisson aussi dans l'histoire. Ouais.
Et comment on facilite aussi le fait de pouvoir, même en société, de pouvoir consommer sans aucun produit d'origine animale dans la restauration collective, qu'elle soit privée ou publique. C'est encore aujourd'hui extrêmement rare de pouvoir s'alimenter sans négocier son repas, ce qui n'est pas normal. Et là, on va
retard,
se rejoindre.
Ça veut dire qu'on est en retard, nous, pour parce
bien sûr,
des menus végétariens ou végétaliens dans les restaurants, on commence à en trouver beaucoup, des restaurants spécialisés
aussi. De plus
aussi.
En plus.
Peut-être par rapport à l'Amérique du Nord, mais enfin, on avance ou pas?
On avance. Nous, avec la plateforme Vegoresto, on a aujourd'hui plus de 800 restos référencés. Donc, c'est des restaurants vegan-friendly, c'est-à-dire que vous allez pouvoir consommer vegan sans devoir négocier votre menu. Enfin, moi, j'ai mangé beaucoup de frites salades aussi dans certains, dans certains restos parce qu'ils étaient complètement désemparés par rapport à ma demande. Donc, c'est quelque chose qui progresse quand même.
J'ai une question, c'est celle de Denis qui nous écrit sur le .fr de France Inter. Et c'est marrant parce que j'avais la même. Les vegans seraient-ils d'accord pour manger des animaux morts naturellement?
Eh ben, dans la théorie, oui. Dans la pratique, on est tout aussi choqués que vous, en fait. Théoriquement, dans un individu, un animal mort de vieillesse, et pourquoi pas un être humain, mais ça nous choque culturellement, quelque part. Mais si c'est un animal mort de sa belle mort ou euthanasie à la fin de sa vie, c'est pas la chair qui nous embête, c'est pas d'ingérer la chair d'un animal finalement, puisque moi j'ai été élevée en mangeant de la viande jusqu'à mes 20 ans, c'est pas ça qui me choque, c'est vraiment le fait de les faire tuer exprès. On tue des animaux qui sont tous très jeunes, on les tue vraiment bien avant qu'ils aient vécu la moindre... une vie pleine et entière, quoi. Et ça, c'est vraiment choquant. Oui, on tue des animaux jeunes, et pour la majorité d'entre eux, en France en tout cas, élevés dans des élevages qui les concentrent en très grand nombre.
Joël, c'est vous qui avez la dernière question ce soir. Bien le bonsoir et bienvenue sur Inter.
Oui, bonsoir. Donc, je suis éleveur, et je précise donc que je mange de la viande. J'adore manger de la viande. Mes parents mangeaient de la viande, mes grands-parents mangeaient de la viande. Bonjour. Et on est tous en très bonne santé. Et donc... Je pense aussi que ne pas manger de viande ou de protéines animales, c'est un caprice de gens qui vivent dans des pays riches. Bien des gens dans le monde aimeraient bien manger comme nous on mange, le pays de la bonne bouffe, et non pas de la malbouffe, comme on veut bien nous le faire comprendre ou entendre. Donc je revendique le fait de manger la viande, et je suis très fier de manger la viande, et je pense que c'est essentiel pour l'équilibre alimentaire des Français, en fait.
Joël, on vous a entendu. Merci beaucoup. Ce qui est intéressant, Éric Birloué, dans ce qu'il dit, Joël, c'est effectivement on ne pourrait pas, dans certains pays et dans certains endroits, oui, se permettre, on va le dire comme ça, d'avoir un régime végan.
Tout à fait. Alors moi, c'est un de mes arguments contre l'abolitionnisme, de l'abolition de l'élevage, qui est de dire, dans un certain nombre de pays, notamment les pays du Sud, les gens sont bien contents d'avoir quelques animaux, à la fois parce que ça permet d'équilibrer la ration alimentaire. La viande n'est pas un poison. On peut évidemment s'en passer, on le voit bien, mais la viande n'est pas pour autant un poison si elle est consommée en quantité modérée, et elle est même une source très intéressante de nutriments. Et puis en plus, l'animal, c'est une force de traction écologique, il fertilise, vous l'avez dit, naturellement la terre. Donc je pense que, voilà, il ne faut absolument pas diaboliser la viande. Par contre, ce qui me paraît très important, c'est de suivre finalement les recommandations des experts qui disent, si l'on veut pouvoir nourrir 9 milliards d'habitants en 2050, on ne pourra pas tous manger de la viande comme autant que les Américains, les Français ou les Argentins. Il faut réduire dans nos pays, je dis bien dans nos pays, la consommation de viande. Et ça, je crois que c'est ça la tendance structurelle lourde de l'alimentation, c'est le flexitarisme. On consomme moins de viande, mais une viande de meilleure qualité avec des garanties de bien-être animal, de respect de l'environnement.
On peut rejoindre.
Allez-y, Josien Pallas.
Oui, on peut rejoindre. C'est effectivement, dans nos sociétés, on a des évolutions très fortes sur la consommation de viande. Elle peut certainement se réduire, mais il faut surtout pas l'arrêter. Enfin, nous, c'est la mort de l'élevage, c'est la mort de nos paysages, c'est la mort de nos territoires, c'est la mort de notre vie sociale.
Vous êtes éleveur, Josien. Moi, j'ai une question subsidiaire qui me vient comme ça. Est-ce qu'on pourrait, ne serait-ce qu'en termes d'agriculture, etc., supporter un pays qui ne ferait que des céréales, des fruits, des légumes, etc. Qu'est-ce qu'il faudrait tout changer aussi en termes d'agriculture?
Bah, c'est la tendance, elle est en France, elle est quand même de la végétalisation, elle est forte. Elle est avec la concentration des animaux, parce que la concentration des animaux, je pense que si on veut garder la biodiversité des territoires et surtout pouvoir pratiquer, je crois, ce qui est le mieux, c'est la polyculture élevage. Il faut maintenir des élevages partout. Il faudrait en remettre d'ailleurs autour du bassin parisien. Ça serait bien de remettre des vaches.
Une toute dernière question, ce sera pour vous, Brigitte Gauthier. Les gens se posent cette question. C'est sur le hashtag Telson. Qu'est-ce qu'on fait avec les animaux domestiques? Est-ce que ça rentre aussi dans les réflexions qui sont les vôtres ou pas?
Oui, c'est
avoir
une réflexion.
Un chien de compagnie, est-ce que c'est pas bien en fait?
Non, c'est pas la question de ni bien ni mal. Il y a des relations avec les animaux, enfin, où les animaux sont heureux de vivre avec les êtres humains. Enfin, c'est gagnant-gagnant. Et pas toujours. Et sur la mort de l'élevage, etc., si
très
vraiment
vite,
on
s'il
est
vous plaît.
Sur le véganisme, non, c'est pas du tout ça. Enfin, il peut rester, enfin, il y aura d'autres, des animaux qui seront encore là. C'est justement ne pas fonder l'existence des animaux sur leur utilité, sur le fait de les manger, mais trouver une autre relation avec les animaux.
Et c'est le mot de la fin du téléphone sonne.